Europe 1. On de la traconte, la suite du récit.
Arrivé au palais de justice, Émile Louis rencontre pour la première fois son avocat.
Il n'y a aucun doute sur le fait que vous allez être incarcéré, monsieur Louis. Ce soir, vous dormirez en prison.
Ah, pourquoi que je dormirai en prison? J'ai rien fait, moi. Je leur ai raconté n'importe quoi, j'ai rien fait. Je veux rentrer chez moi et puis c'est tout. Il y a prescription. Je leur ai dit des trucs, c'était pour leur faire plaisir. Mais c'est pas vrai.
Il n'a toujours pas compris qu'il s'était fait rouler dans la farine, le penet. Le lendemain, les aveux d'Émile Louis font la une de toute la presse. Avec un bémol tout de même. Cette histoire de prescription, car les faits sont anciens, très anciens. Si ça se trouve, disent les journalistes, il va échapper aux poursuites. Les journaux mettent aussi un terme à la rumeur. Non, Émile Louis ne travaillait pas pour un réseau. Il n'a pas eu de complice. Il a agi seul. Bon, ben maintenant, il faut creuser. Si on trouve les 7 corps aux 7 endroits qu'il a désignés, il ne pourra plus jouer les innocents. T'es coincé, Mimil ! T'es coincé ! Alors, on se met à creuser au bulldozer. Au début, c'est laborieux. Les gendarmes ne trouvent rien. Et puis...
Stop ! On arrête !
À 1 mètre de profondeur, l'appel mécanique vient de tomber sur un squelette. Un squelette bâillonné et ligoté. Il porte des vêtements de femme. Les analyses génétiques devront dire qui est cette jeune fille. Et puis les gendarmes se remettent à creuser, à la recherche des autres corps. Jour et nuit.
Il nous a dit n'importe quoi.
Il n'y a rien, 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 rien ici.
Continuez à creuser. Au bout de quelques jours, les gendarmes tombent sur des vêtements de femme à moitié brûlés. Et puis dans la foulée, ils exhument une valise.
Ok, on ouvre.
La valise est bourrée de vêtements de femme. Mais pas d'ossements, pas de cadavres. Cela dit, après examen, les fringues ne laissent aucun doute. Il s'agit de vêtements de la DAS, de vêtures, comme ils disent. Il a juste enlevé les étiquettes qui portaient le nom des gamines.
Bon allez, on s'y recolle.
Et les gendarmes se remettent à creuser. Ça prend des jours et des jours.
Stop !
Ils viennent de tomber sur un deuxième squelette. Lui aussi bâillonné, avec un slip dans la bouche et un collant autour de la tête. Alors il manque toujours 5 corps, bien sûr. Et je préfère vous le dire tout de suite, on ne les retrouvera pas. Mais les 2 qu'on a déterrés, c'est bien lui qui a dit où ils étaient. Alors il pourra dire ce qu'il veut, qu'il est innocent, que c'est la mafia, que c'est les Arabes du café du bout du pont. Mais en vérité, il n'y a aucun doute, c'est lui qui les a tués. Les 7. Grâce aux analyses génétiques, on sait maintenant que le premier corps est celui de Madeleine de Juste et le second celui de Jacqueline Weiss, qu'il hébergeait sous son toit avec sa femme de l'époque. On croit à tort qu'un avocat défend toujours les mensonges de son client. C'est faux. Beaucoup d'avocats aident au contraire leurs clients à accoucher de la vérité. Et c'est ce que fait celui d'Émile Louis, Maître Thuot.
Monsieur Louis, enfin, on a retrouvé 2 corps à un endroit que vous avez désigné. Il sert strictement à rien de nier maintenant. Strictement à rien. Vous devez assumer. Vous entendez? Vous devez assumer.
Ben, vous avez qu'à dire au juge que... ils retrouveront pas les 5 autres corps.
Ça n'est pas exactement ce que lui demandait son avocat.
C'est une bourrique, hein, ce Mimil. Une sacrée tête de mule. 1 mois plus tard, il est interrogé par le juge d'instruction.
Eh bien, il fait l'inverse de ce qu'a préconisé son avocat. Il se rétracte. Totalement.
J'en avais marre, et puis c'est tout. Il m'avait dit que je risquais rien, les gendarmes, à cause de la prescription. Ben, j'ai avoué ce qu'il voulait que j'avoue, quoi. Bon, pour qu'on me laisse tranquille, et puis c'est tout.
Mais enfin, monsieur Louis, on a retrouvé deux corps aux endroits que vous avez désignés. Vous le savez, ça.
Bah, je sais pas, c'est le hasard, quoi. Parce que moi, j'ai dit des endroits... Bon, au petit bonheur, la chance, hein.
Mais enfin, monsieur Louis, ça ne peut pas être le fait du hasard. Vous avez conscience de ça.
En vérité, un jour, j'ai vu des gens qui ont enterré de gros colis à cet endroit, il y a quelques années. Ou... Mais moi, j'ai violé, j'ai tué personne. Personne. C'est un réseau qui a fait ça. Je vous le dis, avec les Arabes du Café du Pont. Et puis c'est tout.
Ça ne sert à rien de raconter des menteries, Mimile. Tu perds ton temps. Alors maintenant, cette histoire de prescription. C'est un sujet sérieux parce que il est vrai que les faits trop anciens sont prescrits, ça c'est vrai. À l'époque en droit, les crimes sont prescrits au bout de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 20. Et là, il faut que je vous fasse un peu de pédagogie. La prescription ne court pas 10 ans après les faits, 10 ans après la disparition des gamines. Elle court 10 ans après le dernier acte d'instruction. Chaque acte d'instruction interrompt la prescription. Et dans ce dossier, où la justice a été nulle, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'enquête a débuté avant la prescription de 10 ans? Alors les avocats des familles de disparus se mettent à fouiller le dossier. Putain, faut qu'on trouve quelque chose, faut qu'on trouve quelque chose, faut qu'on trouve quelque chose. Dis donc là, regarde ça. Dans le dossier, les avocats viennent de tomber sur une lettre du procureur, un soit transmis, comme on dit dans le jargon judiciaire, adressée à la direction des affaires sociales et sanitaires et qui date de 1993. C'est bon ça. Il faut quand même demander à la Cour de cassation si ça suffit, mais la Cour de cassation répond oui, ça suffit. Ouf! Émile Louis pourra donc être jugé devant la Cour d'assises. Ça s'est joué à pas grand-chose. Imaginez que le procès soit impossible à cause de l'inaction de la justice. Vous voyez le scandale? La justice sauve les meubles de justesse. Tiens, au passage... Est-ce qu'ils ont été sanctionnés, tous les gros nazes de juges qui ont enterré ce dossier pendant des années? Est-ce qu'on va les fiche dehors d'une institution qu'ils ont déshonorée? À votre avis? Eh ben non. Les trois magistrats incriminés sont bien sanctionnés, mais le Conseil d'État annule leurs sanctions. C'est pas beau, ça? Copain? Coquin! Et maintenant, il y a une question qui se pose. Émile Louis aurait violé et tué ses 7 jeunes filles à la fin des années 70. Et depuis? Depuis, il a rangé sa bite sur l'oreille? La bestiole, comme il dit, l'a abandonnée? On a du mal à le croire, hein? Depuis qu'il crèche à Draguignan, par exemple, il s'est tenu sage entre 2 séjours en prison? Vraiment sage? Une cellule baptisée Émile 83 est créée. Elle cherche d'autres victimes. Et elle n'en trouve aucune. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'un tordu comme lui n'ait pas récidivé. Et c'est là que sa dernière épouse, qui s'appelle Chantal et qui est handicapée mentale elle aussi, décide de prendre la parole.
Moi, je m'ai marié avec Émile en 92. Je savais pas qu'il avait fait de la prison pour des gosses et tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, après le mariage, il m'a violé. Souvent. Et aussi, il m'a torturé. Et ma fille Karine aussi. Il lui a fait la même chose.
Elle avait quel âge, votre fille, madame?
14 ans. Elle avait 14 ans.
Et donc, Émile Louis est à nouveau placé en garde à vue pour les crimes commis sur sa fille et sa belle-fille.
Ouais, ce que dit ma femme, c'est vrai.
Sauf que dans la foulée, il se rétracte.
J'ai rien fait à ma femme, moi. Et à sa fille, rien du tout non plus.
On te croit pas, Mimile. On te croit pas. Surtout que dans la foulée, Marilyn, ta fille aînée, qui avait révélé au cours de l'enquête que elle aussi et sa mère aussi avaient été violées et battues, décide de publier un livre. Être la fille d'Émile Louis qui paraît chez Michel Lafon. C'est un portrait terrible du bonhomme, terrible. Un premier procès s'ouvre devant la cour d'assises de Draguignan en mars 2004. Il s'agit d'abord de le juger pour les viols accompagnés de tortures et d'actes de barbarie qu'il a commis sur sa deuxième femme, Chantal, et sa belle-fille de 14 ans. Lui, bien sûr, devant la cour d'assises, est fidèle à sa ligne. Il nie.
Ma femme, quand je l'attachais sur la table, et que je la torturais soi-disant, c'est elle qui demandait. Ah, ça oui. Disons que c'était un peu notre manière à nous de faire l'amour, quoi.
Sauf que 4 amis du couple sont appelés à la barre, et qu'elles disent qu'elles aussi ont été droguées et violentées par Émile Louis.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'était mes maîtresses.
Cause toujours, Mimile. Cause toujours. Verdict, 20 ans de prison assorti de 20 années de sûreté. Il fait appel, bien sûr. Et maintenant, passons à l'affaire des 7 disparus. Dans ce dossier, le procès s'ouvre à Auxerre en novembre 2004. La bourrique est toujours sur sa ligne à la noix.
J'ai jamais tué quiconque dans ma vie. Ces accusations contre moi, c'est des mensonges.
La question de sa personnalité est bien sûr au cœur des débats. C'est Philippe Bilger qui est l'avocat général.
Perdez-vous parfois le contrôle de vos émotions, monsieur Louis?
De toute façon, j'en ai marre qu'on m'emmerde avec cette histoire.
À un moment, le président de la cour d'assises organise un transfert sur les lieux, c'est-à-dire à l'endroit où on a retrouvé les 2 cadavres.
Bien, monsieur Louis, pouvez-vous désigner les lieux que vous avez indiqués après votre interpellation?
Là, ici, là. Et puis là.
Et comment saviez-vous que 2 corps étaient enterrés là, précisément à ces 2 endroits, monsieur Louis?
Je l'ai déjà dit. J'ai vu des gars enterrer des sacs ici.
Il est indécrottable. Une plaie. Pas facile à gérer pour ses avocats, les pauvres. À un moment, les avocats des familles, maître Gonzalez de Gaspard et maître Seban, demandent à faire circuler un album photo.
Je vous demande, monsieur le président, de montrer aux jurés les clichés pris au moment de la découverte des corps.
Autrement dit, les photos des squelettes. Sacrée épreuve pour les jurés. Et lui, il sourit, le con. Sans surprise, l'avocat général Philippe Bilger requiert la perpétuité et une peine de sûreté de 22 ans, le max. Et les jurés le condamnent à perpétuité, mais avec une peine de sûreté de 18 ans. C'est un hiatus qui tient à la loi qui prévalait à la fin des années 70 au moment des faits. Est-ce qu'il fait appel? Ah bah oui, forcément. Ensuite, a lieu le procès en appel dans l'affaire des viols et des tortures infligées à sa femme et à sa belle-fille. Il avait pris 20 ans, il en prend 30. Et puis pour finir, il est jugé en appel dans le dossier des disparus de Lyon. Ça se passe en 2006 à Paris et il prend à nouveau perpète avec 18 ans de sûreté. Il a 72 ans et il file à la maison centrale d'Ensisheim en Alsace, où je l'ai vu personnellement jouer aux boules dans la cour de promenade avec Guy Georges, sous les yeux de Francis Holm. Véridique, hein? Et c'est là qu'il est mort, à l'âge de 79 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.